Voilà la prière de Paul pour les chrétiens. Paul priait pour les Éphésiens. Regardez comment il va prier. C'est très intéressant pour nous. Donc au verset 16, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous en faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il éclaire les yeux de votre entendement, afin que vous connaissiez quelle est l'espérance à laquelle vous êtes appelés, quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints, et quelle est, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, conformément à l'efficacité du pouvoir de sa force, qu'il a déployé en Christ quand il a ressuscité des morts et qu'il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, de toute puissance, de tout pouvoir, de toute domination, de tout nom qui se puisse nommer, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans le siècle qui est à venir. Il a mis toutes choses sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » On commence par lire Éphésiens, c'est comme si on prend une grosse vague dans la figure. Tellement il y a de choses, tellement c'est dense ce qui est dit que c'est difficile à saisir. Et ce que moi j'ai appris, c'est que Paul il prie pour une chose en particulier qui va déclencher toute l'avalanche. Il prie pour que nous soyons dans la connaissance, que nous ayons une révélation de Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi? C'est qu'il éclaire les yeux de votre entendement. Ensuite, qu'il vous donne un esprit de sagesse, c'est-à-dire de compréhension, et de révélation pour le connaître lui. Mes amis, mes frères et sœurs, on ne peut pas vivre avec Dieu avec notre intelligence. On ne peut pas vivre avec Dieu dans la religion. On ne peut pas vivre avec Dieu en étant instruit. C'est pas l'instruction qui va nous permettre de connaître les mystères de Christ. Ce n'est pas le nombre des années qui nous permet de dire « Ah, maintenant je connais ». On ne connaît rien. Si Christ se présentait devant nous là maintenant dans toute sa gloire, mais tout le monde serait par terre, le visage par terre, tellement il est glorieux, mais on ne connaît rien. Mais imaginez que Christ révèle dans toute sa majesté, sa gloire, ce qu'il est lui pour nous et ce qu'il a fait pour nous. Mais on est tous par terre dans l'adoration. Paul disait, moi je prie. J'ai entendu parler de votre foi, et maintenant je prie pour vous, pour que vos yeux soient illuminés, que vous ayez une révélation dans la connaissance de Christ. Et ça, c'est une conséquence, mes amis. C'est une conséquence. C'est parce qu'à partir de ce point-là, il va se passer quelque chose. Si je connais Christ tel qu'il est, tout d'un coup, il va se passer un miracle dans ma vie chrétienne. Plus je connais Christ, plus le miracle sera grand. Vous vous souvenez de la Heidi Becker? Elle était désespérée, elle était missionnaire. Ça fait 15 ans qu'elle était missionnaire au Mozambique. Elle a un orphelinat de 200 à 300 orphelins par la foi. Et alors, son mari était parti à Toronto pour être renouvelé dans l'esprit. Et elle dit, moi j'ai besoin de ça. Moi j'ai besoin de connaître Christ. Parce que mon mari, quand il est revenu de cette conférence, il avait plein d'amour, plein de compassion. Il était autre, c'était un autre homme. Il dit, moi j'ai envie de ça. Donc, elle est allée à cette conférence pour être bénie et remplie par Dieu, par Jésus-Christ. Elle est allée là-bas. Ils lui ont imposé les mains elle est restée 3 jours par terre, sous l'onction de Dieu. 3 jours, elle a reçu cette révélation de l'amour de Jésus. Ça a tellement transformé sa vie que quand elle est tournée au Mozambique, des miracles incroyables se sont passés. Elle était pleine de la compassion de Dieu pour les orphelins et pour les malades et pour tout ce qu'elle rencontrait. Elle a rencontré une petite dame. Les musulmans avaient crevé ses yeux avec les doigts. Ils avaient enlevé les globes oculaires, vous imaginez, hein, parce qu'elle était chrétienne. Elle était, tout d'un coup, son amour, l'amour de Dieu est sorti de son cœur pour cette femme. Elle s'est précipitée sur elle. Elle a serré. Elle a serré dans ses bras. Cette femme était aveugle. Elle avait tellement de compassion, elle a juste serré dans ses bras. Elle a relâché, elle avait des globes oculaires et elle voyait. Non, vous imaginez ce que c'est la visitation de Jésus? On n'a rien à voir avec la religion, là. La visitation de Jésus va créer en nous quelque chose que personne ne pourra jamais créer. Ni les années, ni les assemblées, ni les pasteurs, ni les enseignants, ni moi, ni personne. Personne ne peut créer ce que Jésus-Christ peut nous donner. Il faut que s'il y ait cette révélation de Jésus. Et c'est cette révélation de Jésus qui va faire des miracles. Et tout d'un coup, comme par hasard, plein de miracles ont accompagné sa vie. Avant, elle était désespérée, elle était fatiguée de donner, fatiguée. Et tout d'un coup, elle est renouvelée rien qu'en voyant Jésus. Rien qu'en étant touchée par lui. Et c'est pour ça que Paul, il dit ça. Qu'il éclaire les yeux de votre entendement afin que vous connaissiez qui est Jésus. Et il dit ensuite que vous connaissez premièrement l'espérance à laquelle vous êtes appelés. Mes frères et sœurs, souvent, on a passé des moments désespérés dans nos vies. On était vraiment en bas et on pleurait. C'est vrai ou pas? C'est vrai. On a beaucoup pleuré. Et là, il dit, je veux que vous sachiez quelle est votre espérance. Lorsqu'on a été désespéré, c'est parce qu'on n'avait pas la vision de Jésus. On n'avait pas la révélation de ce qu'il peut faire. Alors on était désespéré. Mais il dit là, si Christ vous révèle sa grandeur, eh bien tout d'un coup, il va y avoir de l'espérance dans notre cœur. De l'espérance qui va chasser le désespoir. À quoi tu as appelé? Voilà, à quoi tu as appelé? Tu as besoin de le savoir. Tu as besoin de savoir que Dieu t'aime et qu'il t'appelle et qu'il t'a donné ses dons et que tu vas pouvoir marcher dans la joie, dans la paix, même si tu vois rien pour le moment. Cette espérance n'est qu'en Christ. Et ensuite, il dit, quelle est la richesse de ton héritage? Verset 18. La richesse de ton héritage. L'héritage, c'est simple. Quelqu'un fait un serment. Il dit, tous mes biens sont à lui, ou par lien de filiation, tous les biens sont à l'enfant, au partage, à égal partage. Donc, je vais hériter parce qu'il y a une promesse. C'est la promesse qui me permet de savoir que je vais vraiment hériter. Donc, je vais aller chez le notaire pour prendre possession de tous mes biens. Si quelqu'un m'a légué une somme d'argent, eh bien, la somme d'argent va être virée à ma banque. Et à ce moment-là, je vais savoir que j'ai cette somme-là. Je l'ai. J'ai hérité de ça. C'est en ma possession. Est-ce que je le vois avec mes yeux? Non. Je vois pas avec mes yeux. Je le sais. Et si je, par la foi, je vais à ma banque, excusez-moi le terme, hein, si je vais à ma banque, que je retire de l'argent, le banquier va pas me dire non. Ça veut dire que j'ai hérité et que par la foi, je vais le chercher. Et nous, dans notre vie chrétienne, qu'est-ce qu'on a hérité? Qu'est-ce qu'on a hérité? Allez, je vous écoute. La vie éternelle. Là, tu peux pas la chercher tout de suite, il faudrait que tu attendes. L'amour de Dieu. On a hérité l'amour de Dieu. Oui, c'est une promesse.
La grâce.
La grâce. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit.
La sagesse de Dieu.
La sagesse de Dieu. J'étais dans ma voiture, j'étais en train de prier pour une situation. Et je dis, Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse pour cette situation. Et tout d'un coup, immédiatement, il y a un verset qui rentre dans ma tête. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Il a été fait pour nous sagesse. Je dis, alors, je n'ai pas besoin de la demander. Il a été fait pour moi sagesse de la part de Dieu. Donc, je l'ai. Donc, il suffit que je pratique par la foi. Vous voyez la différence? Dites-moi, combien de fois avez-vous prié la même prière au bas mot pour une situation que vous n'avez jamais vue débloquer? Des centaines et des milliers de fois. Et 10 fois par jour, la même prière. Des fois, c'est ça. Ça veut dire que vous n'avez pas hérité. Ça veut dire que vous êtes dans l'espoir d'hériter. Donc, vous demandez. Mais si vous l'avez reçu, est-ce que vous avez besoin de demander? On dit merci à ce moment-là. Et on prend. Donc, dans ma voiture, j'ai dit, ah, Seigneur, j'ai plus envie de te demander la sagesse parce que je suis rempli de ta sagesse. Regardez 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. Et Dieu, Jésus-Christ, a été fait pour nous. Pour nous, sagesse, justice, sanctification, rédemption. Alléluia. On peut continuer la liste. Qu'est-ce que vous avez hérité? Mon corps hérite de toutes les promesses de Dieu. Mon corps, c'est-à-dire physiquement, ma santé, j'hérite de tout. Le problème, c'est que on est sans cesse en train de demander à Dieu nos besoins, alors qu'on croit que ça n'a pas été encore donné. Ça n'a pas été encore donné. Mon corps, mon âme, tous les besoins de mon âme, tous les besoins de mon esprit, dit, je reçois, de tout mon cœur, je reçois maintenant. Tout notre héritage est contenu dans la parole. Si on ne le prend pas, c'est nous qui sommes responsables. On est héritier. Et si on ne prend pas par la foi, c'est pas Dieu qui n'a pas voulu donner. C'est nous qui n'avons pas pris. Dieu a tout donné. Ça nous fait une différence énorme dans notre vie. Par exemple, il y a quelqu'un qui est malade. Si moi j'ai peur de prier pour lui, je ne saisis pas mon héritage. Si j'ai peur de l'échec, je ne saisis pas mon héritage. Dis, je l'ai fait, prends-le. Et nous, on est toujours en train de remettre la faute sur Dieu. Dieu donne. J'ai donné. Tout est en Christ. L'héritage total est en Christ. Après, il dit l'infinie grandeur de sa force, de sa puissance. Donc, Paul prie que Dieu ouvre nos yeux pour qu'on comprenne l'infinie grandeur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite, que notre héritage est sans limite, que la force de Christ est sans limite pour nous aujourd'hui. Il suffit de le prendre. Il y a un beau témoignage que j'ai aussi mis sur le groupe là, c'est cet homme qui avait un cancer là sur la poitrine, hein, qui grossissait. Il grossissait tant qu'il ne l'avait pas pris, la guérison. Et le cancer a diminué au moment où il a pris la guérison. Processus inverse. Vous voyez, c'est pas demander. Prends par la foi, dis oui, ok, c'est pour moi. Alléluia. Et si tes yeux ne le voient pas, merci Seigneur, je ne l'ai pas encore vu. Il est à moi. C'est à moi. Et tout ça, cette force-là, ce pouvoir-là, il l'a déployé en Christ. la même puissance qui a ressuscité Christ, eh bien cette même puissance peut agir maintenant pour nous, à condition de dire oui. Oui, je le crois. Et dans Éphésiens chapitre 3, de nouveau Paul prie, au verset 14, il dit « Je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin que, selon les richesses de sa gloire, il nous donne d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, enraciné, fondé dans son amour, vous puissiez comprendre quelle est envers nous la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude. » Paul prie de nouveau. Il dit que vous compreniez dans votre fort intérieur que l'Esprit de Dieu vous fortifie dans votre esprit pour que vous puissiez savoir que Christ habite dans vos cœurs. Si Christ habite dans mon cœur, ce n'est pas moi qui agis, c'est lui qui agit. Ce n'est pas ma force, mais Christ en moi, son esprit, est capable de faire les œuvres qui ont été faites jadis par Christ. C'est le même Christ, le même Seigneur. Christ habite dans vos cœurs et c'est pour ça que je prie, que vous le sachiez. Connaître l'amour de Christ afin que vous soyez remplis de toute la plénitude. C'est une déclaration incroyable parce que la plénitude dans nos vies dépend à ce moment-là de la connaissance qu'on a de Christ. Si je me sens plein, parce que la plénitude c'est ça, hein, c'est pas un vase qui est ni à moitié rempli, ni pas loin du bord. C'est un vase qui déborde, hein, comme Christ, hein, il a dit, une source qui déborde. C'est le cœur qui déborde du Saint-Esprit, c'est ça qu'il a voulu dire, le Seigneur. Eh bien, il est dit, à ce moment-là, je suis rempli de la plénitude. Connaître Christ, connaître son amour, et tout d'un coup, je suis plein. On n'a pas besoin d'être plein intellectuellement. On n'a pas besoin de savoir des choses. On a besoin de connaître véritablement l'amour de Dieu pour nous. Moi, ce que j'en retire, c'est que ces témoignages que j'ai entendus il n'y a pas longtemps, ils ont un point commun. Le point commun, c'est la révélation de l'amour de Christ. Et tout d'un coup, quelque chose qui dépasse l'entendement arrive. Le miracle arrive. Le réveil n'arrivera pas parce qu'on va passer des milliers d'heures à prier, comme si on devait supplier un père qui a du mal à donner. Le réveil arrive à partir du moment où on croit que Christ habite en nous et on pratique ce qu'il nous dit. Le réveil arrive comme ça. Mais on a tout reçu en Christ. C'est comme si on avait le paquet cadeau complet. Le salut, la délivrance, la guérison, l'argent pour vivre, la nourriture de notre âme, nos enfants. Voilà, tout est contenu dans ce que Christ a fait sur la croix. Et tout d'un coup, moi, je me mets à genoux et je supplie pour que Dieu me le donne. Mais il dit qu'il nous a donné. Et moi, je suis en train de supplier qu'il y ait de l'argent en banque, alors que l'argent est en banque et que j'ai pas été voir. C'est l'incrédulité et la religion qui font que on croit qu'on doit courir après un Dieu qui se dérobe. imaginez nos enfants si on agissait comme ça. Nos enfants seraient à genoux pour avoir à manger. Jamais ils seront à genoux pour avoir à manger. Ils ont tout le frigo ouvert pour eux. Les parents sont pas là, ils se servent. Tiens, tu veux des pâtes? Allez, le frigo. Ah, ben il y a un steak. Ah, ben tiens, je prends ça. Tu demandes pas? Non, je demande pas. Je suis chez moi. L'enfant, il est chez lui. Ça m'étonnerait que l'un de vous dispute son enfant parce qu'il a mangé. Pourquoi? Je suis chez moi. Mais on est chez nous dans le royaume de Dieu. Pourquoi on supplie ce qui nous a déjà été offert par Christ? L'héritage dont on a dit tout à l'heure, vous êtes d'accord avec moi, c'est bien ça. L'héritage que Christ nous a acquis par sa justice à lui. C'est même pas à moi d'être juste. Il me revêt de sa justice. Et à ce moment-là, je me sens bien chez moi. Je ne me sens pas un intrus dans le royaume de Dieu. Je ne me sens pas un voleur quand je prends à manger. Je prends une guérison. Je prends le salut. Je prie pour un malade en étant sûr que le malade sera guéri. Je prie pour chasser un démon. Je suis sûr que le démon va partir. Je prends. Et je prends le réveil avec. Le réveil est contenu en Christ. Il fait partie de l'héritage. Sauf que, voilà ce qui manque à nous. C'est le pas. Le pas de la foi. Il ne faut plus que je passe des heures à supplier Dieu. Il faut que je passe des heures à le remercier. Premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce que Dieu a mis en ta main que tu peux faire? C'est comme si quelqu'un disait, Seigneur, j'ai besoin d'argent. Il s'assoit dans son relax. Seigneur, j'ai rien à manger, j'ai besoin d'argent. Il commence à avoir faim, hein, au bout d'une journée. Deuxième jour. Oh Seigneur, tu es un Dieu juste et bon. T'as dit que tu donnerais aux petits oiseaux. Ben, donne-moi aussi à moi. Et il continue à prier. Et il fait rien. Troisième jour. Une semaine, deux semaines, troisième, il crève la dalle. Il dit, bon, il faut peut-être que maintenant, que j'aille travailler. Tiens, je vais retourner le bout de terrain là et je vais planter quelque chose. Mais oui, mais c'est comme ça. Les chrétiens, ils sont un peu fous quand même des fois. Ils attendent de Dieu ce qu'il a déjà donné. Il nous a donné un corps avec de la force. Et nous, on est là passifs. Mais vraiment passifs. Dieu bénit. Mais il ne peut pas bénir le paresseux. Le paresseux tourne dans son lit. Il dit, c'est trop dur pour prendre à manger. C'est ça qu'il dit dans Proverbe. Il ne met pas sa main à sa bouche parce que le plat est trop loin de sa bouche. Donc, trop loin. Le paresseux ne peut hériter de rien. Mais ce n'est pas une condamnation qu'il dit. C'est ce que Dieu nous a donné. On le fait. Et c'est écrit que Dieu multiplie. Le réveil, il est là. On est en train de vivre le réveil. Il faut qu'on y croit et qu'on y travaille avec la foi. En fait, c'est avec cet esprit de foi que Dieu veut nous faire agir. Voilà. Soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Dieu peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous pouvons demander et même penser. À lui soit la gloire dans l'Église, par Jésus-Christ, dans tous les âges, au siècle des siècles. Amen.